Chaque jour, nous ayons à cœur de t'aimer, de te ressembler, de nous rapprocher de toi et de marcher dans tes voies. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen. Voilà, alors ce matin, je vous propose de lire ensemble un texte du livre du Deutéronome. Je trouve au chapitre 10. Et c'est les versets 12 à 22. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici que l'Éternel ton Dieu appartienne les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne révélerez plus votre nuque. Car l'Éternel, votre Dieu, et le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu lui rendras un culte. Tu t'attacheras à lui et tu prêteras serment par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces œuvres grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles du ciel. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Première lecture, peut-être certains d'entre vous ont reçu ce texte comme une loi, comme une contrainte. Ravivons peut-être chez certains l'image d'un Dieu qui commande et ordonne, et d'une créature esclave qui n'a qu'à obéir. Or, c'est exactement l'inverse de ce que nous dit le Seigneur dans sa parole, et c'est exactement l'inverse du but recherché. Cela nous montre déjà à quel point souvent le diable pervertit notre regard, notre compréhension, notre réception des choses et même, malheureusement, parfois de la parole de Dieu. Dieu nous appelle à la liberté. Alors, on a lu un texte dans Galates 5, on trouve deux versets dans ce même chapitre, dans lequel Dieu nous appelle à la liberté. Il le dit, il le répète dans sa parole. Et de la même façon, quand Dieu donne les 10 commandements à Israël, c'est parce qu'il vient de les libérer de l'esclavage et qu'il veut leur donner les moyens de vivre cette liberté. C'est tout le concept que nous étudions avec les capitules humaines cette année. Comment la loi de Dieu nous libère, c'est tout un programme. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si ce texte que nous venons de lire suit directement le don, alors c'est la deuxième fois qu'il y a ce don, le don des tables de la loi. Les premières ont été cassées, vous vous souvenez. Voilà, donc il y a les tables de la loi, numéro 2. C'est juste avant. Dieu nous veut vivre libre. C'est parce qu'il sait que nous avons du mal à vivre cette liberté sans nous mettre assez vite et très gravement en danger. Et bien, il nous donne les moyens pour la vivre en sécurité, par amour et pour notre bonheur. Le premier point sur lequel je voudrais donc qu'on s'arrête ensemble, c'est redécouvrir qui est Dieu et qui est Dieu pour nous. Parce que je crois que rien n'est possible sans cette quête jamais achevée. Et le texte nous y invite, puisque dans ces quelques versets, on trouve 8 fois les mots mon Dieu, ou votre Dieu, une fois. Ensuite, on pourra se pencher sur ce que Dieu demande et pourquoi il le demande. Alors, je ne vais pas développer ces points longuement parce que ce que j'ai reçu pour vous dire à la fin, mais je vous encourage à vous saisir de ces points et à les travailler ensuite dans votre étude personnelle, à chercher dans la parole de Dieu les différents versets qui reprennent ces notions et à vous nourrir de ce que Dieu veut vous dire. Alors, je n'ai pas encore fait, mais je ferai passer le texte de la prédication hein, pour qu'il soit sur le site et ceux qui le veulent en papier aussi pour le recevoir. Qui est Dieu donc? C'est le premier point. Le verset 14 nous le présente comme créateur. Ce Dieu qui a tout créé, à qui appartiennent les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, est aussi mon Dieu. Est-ce que nous réalisons cela? Dieu n'est pas seulement, comme parfois certains le disent, un grand horloger très loin dans l'univers. Il est aussi mon Dieu. Il a tout pensé, tout créé, tout façonné. Il maintient les lois de l'univers, il tient toutes choses dans sa main, et pourtant, il se soucie de moi, de vous, de chacun, individuellement. Et en plus, il exprime cette proximité en disant dans sa parole qu'il est notre Père, un Père aimant, un Père qui s'attache, qui veille, qui protège, qui choisit, qui conduit. Quel est ce mystère par lequel Dieu le Créateur a choisi un peuple fait d'humains pécheurs pour les aimer et s'attacher à eux? Est-ce que ça aussi, ça n'est pas incroyable? Alors, chacun de ces points mériterait qu'on s'y attarde. Évidemment, ils peuvent nourrir la méditation de toute une vie en cherchant à connaître Dieu. Il le poursuit. Dieu qui est mon Père, donc, n'est pas un petit Dieu. Il est tout puissant, c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Que pouvons-nous donc craindre? Que peuvent me faire les hommes, rappelle le psalmiste. Ou encore l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui soit contre nous. On sait ces choses-là. Et pourtant, nos vies reflètent bien peu le fait qu'on les sache. Le Tout-Puissant ensuite est aussi celui qui juge et qui fait droit. Lui-même ne fait pas de considération de personne, nous rappelle ce texte. Il est impartial dans ses jugements. Il est incorruptible, il ne reçoit pas de présent. Dans une autre traduction, c'est « il ne reçoit pas de pot de vin ». Voyez, on est bien en train de parler de corruption. Mais il a un cœur plein d'amour pour la veuve et pour l'orphelin, ainsi que pour l'immigrant ou l'étranger, selon les versions. Dieu ne les oublie pas, il en prend soin d'une manière toute spéciale, il leur fait droit. Il les aime, il prend soin d'eux, de manière concrète, pratique, en leur donnant la nourriture et les vêtements. Deuxième point, ce que Dieu demande. Et là, on peut voir que la demande est à la fois individuelle et communautaire, parce qu'elle s'adresse au peuple, certes, elle s'adresse aussi à moi, personnellement. On pourrait éventuellement résumer la demande aux 4 verbes du verset 14. Il y a craindre d'abord, c'est-à-dire respecter et honorer, avoir conscience de la sainteté et de la perfection de Dieu. Aimer et servir ensuite, c'est-à-dire rendre un culte, c'est ce que le verset arrive dans ce texte. Aimer et servir de tout notre cœur et de toute notre âme. On reconnaît là le plus grand commandement de la loi tel que Jésus nous le donne et qui nous a été rappelé juste avant. Dieu attend de nous notre amour en réponse au observer les commandements et les prescriptions, ce sont là les fameux moyens que Dieu met en place dans son amour pour nous aider à vivre la liberté qu'il nous a acquise. Et ça, c'était le quatrième verbe observé. Nous nous parlons aussi de circoncision du cœur. Et en parlant de cela, Dieu est en train de demander notre fidélité. Ça signifie qu'il ne se satisfait pas d'une foi qui resterait intellectuelle ou verbale même. Mais il attend que nos vies soient des témoins parlants de notre foi. Que nos vies racontent qui il est en fait. Et là aussi, je citerai l'apôtre Paul de ce verset qui, à chaque fois, me bouleverse, qui dit que nous sommes la lettre de Christ. Et on était nous-mêmes un écrit là, qui dit qui est Jésus. Prendre conscience de ça, et bien ça vous fait quand même réfléchir deux fois avant de faire ou de dire certaines choses. Voilà, la question qui résulte de ce verset finalement, et que je me pose en premier lieu à moi-même, hein, que raconte nos vies, nos choix, nos décisions? Qu'est-ce que ça dit de Jésus-Christ? Le Seigneur poursuit au verset 19 en nous invitant à aimer l'étranger. C'est comme s'il vient nous rappeler les paroles de Jésus en Luc 6. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ou encore, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, le fameux résumé de la loi, c'est toi avec la deuxième parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes appelés, rappelés à être sensibles aux autres, à ce qu'ils vivent. De la même façon que Dieu est sensible et se préoccupe de ce qui nous arrive, même les petites choses. Je crois que c'est important de le redire et de s'en souvenir parce que notre société nous entraîne vers un tout autre chemin, celui de l'égocentrisme, de l'égoïsme. On ne voit même pas, à la limite, on ne fait même pas exprès, on ne voit plus ce qui se passe autour de nous. Être sensible aux autres. Vous voyez, c'est toutes des choses qu'on sait hein, et qui sont simples sur le papier, mais qui mériteraient une vie entière. Pour comprendre et saisir ces vérités. Et on retrouve au verset 20, d'autres verbes encore qui semblent résumer la demande de l'Éternel. Certains qu'on a déjà trouvés au début, hein, par exemple, craindre de servir ou rendre un culte. On a aussi s'attacher, qui peut revenir à aimer. Même si l'expression rajoute quand même une dimension d'effort qui est bien utile. Qui n'est pas sans nous rappeler là aussi les paroles du Christ qui demande. Que nous demeurions attachés à lui, comme les servants le sont au ciel. Alors, troisième point, pourquoi Dieu nous demande de tout ça? La première chose qui est évidente dans ce texte, c'est pour marcher dans toutes ses voies. Dieu veut nous conduire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on dit. Mais ça veut dire que Dieu connaît la route la plus sûre. Ça veut dire qu'il connaît aussi les lieux de danger, les obstacles. Et dans la question du coup qui se pose, c'est pourquoi donc ne le laissons-nous pas conduire, nous conduire, dans ces voies qui sont justes, bonnes et parfaites. Peut-être que parfois, croyons-nous qu'il veut nous conduire pour de mauvaises raisons et pas pour notre bien. Peut-être qu'il y a des raisons cachées parfois, il y a un piège quelque part. Et la suite. Nous dit le contraire. Aimer et adorer, et je reprends ici ces termes, aimer et servir dont j'ai déjà parlé, parce que je crois qu'ils sont tout autant dans ce texte la demande que le but, et même la raison de la demande. Dieu demande que nous l'aimions, parce que l'aimer, ça nous conduit à la plénitude. Il ne nous demande pas de l'aimer parce qu'il serait égoïste. L'aimer, ça nous conduit à la plénitude. Et si nous l'aimons, nous l'aimerons encore davantage. Et ainsi de suite. Et en fait, entrer dans ce cercle, ça nous conduit à être remplis d'une joie et d'une paix parfaite. Plus nous l'aimons, plus nous l'adorons. Plus nous l'adorons, plus nous l'aimons. prière en petit niveau. Mais toute cette majesté. Alors, on peut être heureux aussi, hein, dans de nombreux passages de l'Écriture. Dieu nous rappelle que le but de l'obéissance, c'est notre bonheur et notre bien. Et c'est aussi sa réponse au divin. Cela seul devrait être une raison suffisante à montrer les intentions de l'Éternel envers nous et à tout nous expliquer aussi. Dieu veut notre bonheur parce qu'il nous aime. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Parce que nous aussi, on aime des gens. Et donc, on veut leur bonheur. On comprend le mécanisme. Et comme il connaît tout, il sait par quel chemin passe son bonheur promis. Alors, il donne la direction à suivre. Vous voyez, il y a une logique. Ce qui est fou, encore une fois, c'est que nous sommes toujours en train de nous demander si c'est une bonne idée ou si un autre choix ne serait pas plus enviable. La suite du texte nous parle de ce lien entre Dieu et nous, le lien qu'il a choisi lui de faire. Comme l'enfant ressemble à ses parents, et bien Dieu qui est notre Père considère comme normal que nous lui ressemblions. Il nous demande d'aimer parce que lui-même est amour. Il nous demande d'être juste et droit parce qu'il l'est. Il nous demande d'être fidèle et bon ou encore saint parce que c'est ce qu'il est et qui a placé son image en nous. Et on a quand même des pertes en plus par rapport à ce peuple d'Israël qui reçoit ce texte. Parce que maintenant que Christ est venu une première fois, il a fait habiter son esprit en nous. Là, on est quand même drôlement aidé. Cet esprit, il a le fait de travailler nos cœurs pour nous faire ressembler à Jésus, qui est lui l'image parfaite du Père. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a pas d'excuse, mais c'est pas loin quand même. Et la dernière raison, c'est parce que nous sommes un peuple choisi et aimé. Parce que nous sommes choisis et aimés par Dieu. Nous avons la responsabilité d'être ses témoins dans le monde, d'être sel et lumière, d'être messager de l'évangile de Jésus-Christ. Nous portons le nom de Christ. Tandis qu'on est chrétien, c'est ça que ça veut dire. On porte son nom. Nous sommes unis et associés pour toujours avec le Fils de Dieu qui est ressuscité et glorifié. Et si nous regardons le langage qu'emploie Jean pour le dire, dans sa première épître au chapitre 4, il nous dit, comme il est lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. L'Éternel est Dieu. Il est notre Dieu. Et cela doit se voir et se savoir. Parce qu'il est notre gloire et le sujet de nos louanges, et bien nous aurons envie de marcher dans ses voies et d'obéir à ses commandements, pour l'honneur et la gloire de son nom. Parce qu'il est fidèle, nous pouvons nous appuyer sur lui. Parce qu'il est fidèle, nous pouvons croire ce qu'il dit. Et nous pouvons compter sur ses promesses. Parce que Dieu dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Alors j'en arrive à l'exhortation du Seigneur, qui est liée à d'autres textes, que j'ai pas pu vous lire aujourd'hui parce que ça aurait été trop long, se souvenir de son premier amour. Vous voyez à quoi j'ai fait référence. Il faut connaître Dieu, s'émerveiller de qui il est et de ce qu'il fait, et comprendre profondément et intimement la position qui est la nôtre. Et la position qui est la nôtre, mes amis, c'est d'être aimé, d'être chéri, justifié, d'être sauvé. Voilà la position qui est la nôtre. Alors seulement, nous prenons conscience de ces réalités et l'obéissance, la crainte, l'amour, le service sont alors des fruits logiques de cette compréhension. Dieu ne veut pas notre obéissance d'esclave, mais l'obéissance d'amour. Or souvent, nous offrons une obéissance d'esclave. Et en plus du coup, oral, parce qu'on n'aime pas être esclave. Dieu nous demande une obéissance d'amour. Nous n'avons pas vu que dans l'Écriture, et ce texte bien juste avant, il demande qu'on l'aime. C'est parce qu'il nous aime que nous l'aimons, et c'est parce que nous l'aimons que nous pouvons l'obéir. C'est pas dans notre sens. Et le cercle vertueux est alors bouclé, puisque le salaire de l'obéissance est bien, c'est le bonheur et la vie éternelle. Comment voudrions-nous donc encore rester en dehors de ce cercle-là? Comment se fait-il que tant de chrétiens mènent une vie misérable? Mais je ne parle pas des épreuves, hein. Les épreuves, c'est autre chose. Je parle de la vie spirituelle du chrétien. Comment se fait-il qu'on vit encore parfois des vies misérables? N'est-ce pas un manque de compréhension profonde de ces réalités qui sont restées au mieux nos oreilles, mais qui ne sont pas descendues dans notre cœur, et qui régulièrement remontent au niveau des oreilles, et de nouveau on se laisse embarquer. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire passer les choses des oreilles au cœur, mais encore faut-il que nous acceptions ce travail-là. Et nous n'avons pas d'effort à fournir pour y arriver. Ça aussi, peut-être, il faut qu'on l'entendions. Nous n'avons pas d'effort à faire pour plaire à Dieu, puisque quand il nous regarde, il voit Christ, son Fils bien-aimé. Nous n'avons pas d'effort à faire pour obéir et correspondre à ce qu'il attend, pas d'effort pour vivre en chrétien, en disciple de Christ, pas d'effort à condition que nous saisissions ces précieuses vérités rappelées dans ce texte et éclairées par la venue de Christ, et que nous les vivions vraiment. Christ qui nous rappelle de me réattacher à moi. Et c'est tout à la limite. Si on arrive à faire ça, le reste, ça suit. Alors, est-ce que je vis chaque journée comme quelqu'un qui est profondément aimé de Dieu? Est-ce que je suis conscient que rien ne peut empêcher Dieu de continuer à m'aimer parfaitement? En disant ça, je suis d'accord qu'on peut le décevoir. Je peux décevoir Dieu, d'ailleurs. Soit très souvent. Je peux me tromper. Mais cela ne change rien à son amour pour moi. Et ça, il faut vraiment qu'on l'intègre. Un amour qui lui a coûté son Fils, mort sur la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés, pour que je sois réconcilié avec lui et sauvé de la mort. Dieu ne va pas cesser de m'aimer. Parce que Dieu m'aime, il veut que je sois heureux et il me dit comment être. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, alors je marche dans ses voies de paix et de bonheur pour moi. Alors je fais sa volonté sans que cela ne me coûte quoi que ce soit. Parce que ça sera devenu naturel. Voilà, c'est aussi simple que ça, en tout cas sur le papier. Dans la vie, c'est plus compliqué. Hein. Mais si c'est si simple, pourquoi est-ce que nous sommes si peu enclins à le dire? Quand l'ennemi vous accuse, répétez ces mots tout de même. Que l'ennemi joue sur ça. Regarde comme t'es mauvais là, regarde comme t'as été bidon. Ne va pas continuer à t'aimer là. Tout le temps, il fait ça. La culpabilité et la honte, ces choses qui embourbent le chrétien dans sa vie, s'efface si on se redit régulièrement et qu'on lui redit à lui, Dieu m'aime. Tu peux rien contre ça. Si nous parvenions à nous voir comme Dieu nous voit, je crois que ça changerait tout. Nous aurions davantage confiance, nous ne serions plus happés continuellement par la culpabilité et la honte, qui sont véritablement les larmes du malin. Et nous marcherions en nouveauté de vie. Alors, si nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous, quel sentiment d'amour et de grâce il y avait dans le cœur de Dieu, mais aussi dans le cœur du Seigneur Jésus, et quel prix le Père et le Fils ont payé pour mon salut, que disent alors de telles paroles en cœur. Il y a ici un cœur qui a vu ces choses comme moi et qui ensuite refuserait d'agir en conséquence. Y a-t-il un cœur qui n'a pas de réponse en face d'un tel amour de la part de Dieu? Y a-t-il un cœur qui n'a pas été réchauffé, réveillé dans son amour pour le Seigneur Jésus qui a tant fait pour nous? Un cœur qui n'a pas désiré appartenir au Père, qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous? Et je rappelle ces versets, en ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima, et qu'il envoya son Fils pour être péché. Ou encore Romains, Dieu prouve son amour à lui envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ainsi que nous avons appris ce qu'est véritablement l'amour. Et ce verset est bien connu, nous, nous l'aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle, une vie de liberté, de bonheur, dans son amour, bien caché en lui. Que son nom soit béni. Nous implorons le secours de ton esprit pour que ces vérités puissent être réellement intégrées, non seulement dans nos compréhensions, mais dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos façons de te servir, que ça change notre visage, que ça change notre joie, notre paix. Que Seigneur, ce puisse être réellement des résolutions et des nouvelles manières de vivre face à ce monde. Cherche à tout prix à nous engourber, à nous perdre, pour ça que le Seigneur nous rendre réellement libres, puisque toi tu es venu nous affranchir. Nous te prions, Seigneur, que tu continues cette œuvre en nous, que tu continues de nous rappeler ces paroles et de travailler nos cœurs. Nous t'en prions dans le nom béni de Jésus.